France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Entre créances et révérences, enquête sur les dépenses de Louis XVI, l'état des finances du royaume est un passage obligé au moment de réfléchir aux origines de la Révolution française. Et s'y trouve pêle-mêle le coût de l'aide apportée pendant la guerre d'indépendance américaine, les dépenses somptueuses de la cour, particulièrement celles de la reine Marie-Antoinette et l'impossible réforme de la fiscalité du royaume. C'est une histoire de recettes et de dépenses, de leur contrôle aussi si difficile. C'est la petite dette qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle.
Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences.
Non, monsieur Mickey.
Le cours de l'histoire.
Votre seconde option?
Convoquer les états généraux, sire. C'est le seul corps d'état qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté.
C'est inévitable.
C'est inévitable dans le film La Révolution française de Robert Héricault en 1989. Une discussion entre Louis XVI et son ministre Necker. Bonjour Benoît Carré.
Bonjour Xavier Mauduit.
Les finances du royaume vont mal au moment où cette conversation a lieu.
Très très mal et à vrai dire, c'est inévitable de convoquer les états généraux et j'aime beaucoup l'extrait que vous avez diffusé parce qu'il permet de poser les choses. C'est-à-dire que la monarchie absolue n'est pas si absolue que ça puisque le roi a besoin d'une institution, en l'occurrence les états généraux, pour résorber son déficit. Et l'autre information importante qui est donnée par cet extrait, c'est l'origine de ce déficit, principalement la guerre contre les Anglais en soutien aux insurgents.
Oui, parce que au contraire de ce que l'on pourrait penser facilement, le roi ne peut pas lever un impôt comme il le souhaite. On évoque ici les états généraux. Les états généraux, la réunion des trois ordres du royaume, ça ne s'était pas produit depuis le début du XVIIe siècle. Donc on sent que c'est le cas extrême, mais il a quand même d'autres possibilités, notre bon roi, pour lever des impôts. Comment procède-t-il ?
Exactement. Alors, d'habitude, la voie classique, c'est de passer par un édit qui est enregistré par le Parlement. Alors, le Parlement n'est pas un Parlement comme on l'entend aujourd'hui. Ce n'est pas une chambre élue, c'est une cour de justice, tout simplement, composée de magistrats inamovibles, qui sont des officiers propriétaires de leurs charges, qui appartiennent à ce qu'on appelle la noblesse de robe à cette époque-là. Et le Parlement doit enregistrer les édits fiscaux pour lever les impôts, le 20e, ou pour faire de grands emprunts. Et évidemment, il peut discuter cela, il parlemente, il peut faire jouer la montre et jouer sur la contrariété du roi, il peut faire des remontrances pour protester contre le contenu d'un édit. Et dans ce cas-là, le roi a plusieurs moyens pour contraindre les parlementaires d'enregistrer son édit. Et l'ultime moyen, c'est ce qu'on appelle le lit de justice, qui est peut-être l'ancêtre de notre 49-3, mais qui est une manière de forcer l'enregistrement d'un texte, et en l'occurrence un édit fiscal, par la présence même du roi en chambre, au Parlement. Mais généralement, les magistrats continuent ensuite à protester. Donc ça crée de la crise politique quand les magistrats procèdent ainsi par voie de remontrance.
Benoît Carré, vous êtes docteur en histoire, spécialiste de l'Ancien Régime et de la Révolution. Vous publiez « Distribuer l'argent du roi au XVIIIe siècle, la monarchie dévoilée », c'était aux éditions du Septentrion, les presses universitaires du Septentrion, c'est issu de votre thèse. Distribuer l'argent du roi, ce n'est pas récolter de l'argent. Et à vous écouter, il est difficile de récolter de l'argent, le roi ne fait pas ce qu'il veut, il faut passer par le Parlement. Mais pour distribuer, là, il fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas de contrôle pour les dépenses du roi.
Pour distribuer, c'est beaucoup plus facile. Autant c'est difficile de dire qu'il y a un absolutisme dans la manière de récolter de l'argent, autant il n'y a rien de plus simple, de plus facile que de dépenser l'argent du roi. Et c'est lié tout simplement à la manière dont s'engagent les dépenses sous la monarchie d'Ancien Régime. Il suffit que le ministre aille voir le roi, donc un secrétaire d'État, cas dans le cadre de son travail avec le roi, parce qu'il a une séance de travail hebdomadaire, pour engager de nouvelles dépenses, par exemple des pensions, des gratifications. C'est-à-dire que même si, au sein du Conseil royal des finances, une fois par an, on arrête ce qui ressemble grosso modo à un budget, mais qui n'en est pas à ce qu'on appelle un état, les états du roi, qui prévoient des dépenses à partir d'estimations, parce qu'on n'a pas forcément de regard très précis sur ce qu'on a dépensé et sur ce qu'on a reçu, surtout au cours d'une année. Tout ça est très, très confus, on avance dans le brouillard. Eh bien, malgré les états du roi qui cadrent à peu près la dépense au cours de l'année, il est très facile d'engager de nouvelles dépenses au fil de l'eau. Il y a plusieurs robinets, en fait, tout simplement. Il n'y en a pas qu'un seul. Et parce qu'il y a plusieurs ordonnateurs. Les ordonnateurs, ce sont ceux qui ont autorité. Alors, la plupart, ce sont des secrétaires d'État, mais il y a aussi au sein de la maison du roi, hein, c'est-à-dire l'institution qui gère la cour. Il y a au sein de la maison du roi plusieurs officiers qui peuvent aussi créer de nouvelles petites dépenses dans chacun de leurs services. Et tout ça commence à être cadré, notamment par l'action de Necker, hein, le directeur général des finances, à partir de 1777. Tout ça commence à être un petit peu encadré, mais la culture de la dépense est beaucoup plus forte.
Oui, parce que l'on pourrait penser que, ne disposant pas des moyens techniques pour collecter l'information, nous avons ce brouillard que vous évoquez. Mais c'est pas tellement ça le problème. C'est une autre conception que celle que nous connaissons aujourd'hui, avec un budget de l'État, avec un trésor public, et puis l'impôt collecté, des répartitions. On ne peut pas réfléchir aux finances de l'Ancien Régime avec les outils dont nous disposons aujourd'hui.
Exactement, c'est impossible, tout simplement parce qu'il y a une matérialité de l'argent qui nous échappe dans nos sociétés contemporaines. Aujourd'hui, on paie par virement, tout ça est presque entièrement numérisé. À l'époque, il y a une matérialité de l'argent qui rend compliqué la collecte de l'impôt, l'approvisionnement, le fait de faire venir la recette fiscale jusqu'au trésor à Paris, ça a un coût. La distribution aussi est encadrée par cette matérialité, donc qui évidemment ralentit les flux. Et puis il y a la comptabilité qui entre en ligne de compte. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la reddition des comptes, tout simplement le fait de savoir exactement ce qui a été dépensé à la fin d'une année, prend du temps, prend du retard sous le règne de Louis XVI, même plusieurs années, jusqu'à 8 ans de retard. Ce qui fait que au moment où la Révolution commence, ou plutôt au moment où l'Assemblée des Notables est convoquée en 1787, on commence à savoir précisément exactement ce qui a été reçu et dépensé durant la guerre d'Amérique. Donc il y a un flou, un brouillard. Bien entendu, le contrôle général des finances est en mesure de préparer des estimations relativement précises, mais sur ce qui a vraiment été reçu et dépensé, il y a ce flou qui fait qu'il y a une ignorance financière des dirigeants. Le roi, finalement, ne sait pas ce qu'il reçoit et ne sait pas ce qu'il dépense quand il engage de nouvelles dépenses. Et c'est la même chose pour les pensions. Plusieurs décennies avant de savoir exactement combien de pensions il donne à sa noblesse.
C'est quoi ces pensions ?
Alors, les pensions, ce sont des subventions particulières, pourrait-on dire, que le roi alloue en récompense souvent de services rendus par ses serviteurs, son entourage. C'est de l'argent qui va principalement à la noblesse, en récompense de services rendus dans les armées ou en récompense de services rendus dans l'administration. Et là, ça prend la forme de pension de retraite. Mais ça peut aussi être des sommes d'argent considérables qui sont versées à des membres de la haute noblesse, notamment les princes du sang, qui sont des dynasties de rechange, hein, tout simplement, à cette époque-là, qui sont des cousins du roi. Et pour les aider à soutenir leur rang, eh bien, le roi leur donne une allocation, une subvention qui peut atteindre plusieurs dizaines, voire centaines, milliers de livres par an. Donc c'est beaucoup d'argent, c'est une dépense qui est hybride d'un point de vue symbolique, hein, en ce qui nous concerne, et qui, dont le montant et découvert véritablement en 1781 après une réforme de Necker. Donc on pensait que les pensions coûtaient à l'État 10 millions, 11 millions de livres par an. Et on se rend compte qu'en fait c'est 28 millions parce qu'on centralise tout sur une seule et même caisse. Et cette dépense-là, la révélation de cette dépense-là va créer du malaise et de l'incompréhension au sein de la noblesse de France.
Un régime pension complète.
À partir du moment où le roi a un état et qui n'est pas celui du commun, les dépenses de son hôtel croissent. Il y a les dépenses proprement politiques et à mesure que l'état s'affirme, les dépenses politiques s'amplifient. C'est l'achat des fidélités. L'achat des fidélités à tous les niveaux. Depuis l'officier que l'on continue à gager, mais auquel on fait des cadeaux, auquel on donne des pensions, des rentes. Pendant un temps, ce sont les fiefrentes. Plus tard, ce sont tout simplement des pensions sur le trésor, des pensions assignées sur les revenus du roi. Et puis, à côté des serviteurs de l'État, il y a les budgétivores principaux que sont les princes, dont il faut acheter la fidélité politique, c'est-à-dire soit l'aide, soit tout simplement la neutralité, ce qui conduit à leur donner de l'argent, ce qui conduit même à leur déléguer une partie des revenus du roi, puisque très souvent, ils sont bénéficiaires dans leur propre seigneurie, qui peut être un duché, du revenu de l'impôt que normalement eût perçu le roi.
L'historien Jean Favier en 1971 dans Les Lundis de l'Histoire avec cette évocation très politique des pensions. Le roi ne peut pas s'en passer.
Exactement, la noblesse non plus. Le roi ne peut pas s'en passer. Et aussi parce que en tant que maître de maison au sein de sa propre maison, il a un devoir de récompenser ses serviteurs comme n'importe quel maître de maison. Et il n'est pas seulement maître d'une maison, il est aussi maître d'un état dynastique, d'un état tout court, et pour lequel il est important de récompenser la fidélité et le service. On est dans un système d'échanges de dons, de contre-dons, de dons contre services, qui a été très bien théorisé, expliqué par un historien Alain Guéry, hein, il y a plusieurs décennies déjà de cela. Et c'est consubstantiel au fonctionnement de la monarchie d'avoir cette traduction finalement de la relation féodale du seigneur et envers son vassal, qui est traduite par un échange d'argent, qui se matérialise par cet échange d'argent, qui est un peu plus complexe dans le cadre des officiers, c'est-à-dire ce sont ces personnes qui achètent de la fonction publique, qui achètent leur position au sein de l'administration, donc qui avance une somme d'argent considérable, parce que il faut rappeler à nos auditeurs que dans la monarchie d'Ancien Régime, on ne devient pas fonctionnaire par concours, mais on achète sa place. La fonction publique est vendue et on devient propriétaire d'une part de fonction publique. Et ces charges-là sont vendues par la couronne, mais ensuite elles sont rétribuées. On touche des gages, on touche des émoluments en argent, en nature, et ensuite, à la fin de son service, on peut obtenir des récompenses sous forme de pension. Donc la pension est le ticket rémunérateur du service public qui est consubstantiel au fonctionnement de la monarchie. Et le problème, c'est que plus la monarchie se développe, plus le roi fait la guerre, plus il a le devoir de récompenser les officiers de ses armées qui l'ont servi, plus cela coûte cher. Et à partir du moment où le trésor se trouve confronté à des difficultés, il devient de plus en plus difficile de payer. Et l'enjeu n'est plus tellement d'obtenir une pension, mais d'être payé à l'échéance, payé en temps et en heure de sa pension. Et là, un nouveau système de distinction s'opère au sein de la monarchie, et on voit que ceux qui sont plus proches du roi, qui appartiennent à l'entourage du roi, qui sont dans sa faveur, qui sont à la cour, sont payés beaucoup plus à l'heure, hein, beaucoup plus à l'échéance que le pauvre petit noble de province, une petite noblesse qui ne connaît pas la cour et qui en général est oublié par le trésor et doit se faire rappeler au bon souvenir des commis pour être enfin payé 4, 5, 6, voire 7 ans après de sa pension. Donc il y a déjà ce système-là. C'est-à-dire que la distinction, la faveur royale et la distinction par la faveur est présente même dans la manière dont on paie ses pensions.
Et puis c'est très complexe aussi à organiser ces pensions-là. Alors nous avons, nous, l'idée d'un budget réparti en plusieurs ministères, et puis chaque ministère s'occupe de payer ses fonctionnaires. Mais dans le cas de la monarchie d'Ancien Régime, il n'est pas possible de le concevoir ainsi. D'où vient l'argent des pensions? Alors d'où vient l'argent, on l'imagine bien, sont les pauvres gens qui travaillent et qui ont payé leurs impôts. Jusque-là, c'est cohérent. Mais quel est le cheminement avant d'arriver à la personne qui reçoit la pension?
Alors, le cheminement, il y a déjà un cheminement administratif politique, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le secrétaire d'État qui, dans le cadre du travail avec le roi, propose tout simplement une feuille de décision qui est un mini-mémoire où on résume la carrière du serviteur et puis on demande une pension dont le montant est généralement défini par l'usage, c'est-à-dire par les précédents, puisqu'il n'y a aucun cadre, il n'y a pas de loi qui encadre la pension de retraite, il n'y a pas de système de retraite, il n'y a pas de droit surtout. Tout ça relève de la grâce. Le roi peut dire oui, peut aussi dire non. Et donc il y a ce cheminement administratif là. Et une fois que le roi a donné son bon, c'est-à-dire sa décision favorable, c'est-à-dire qu'il a écrit juste ces trois petites lettres, bon, sur une feuille manuscrite, s'enclenche un circuit administratif où cette feuille de décision part dans les bureaux, devient un brevet de pension, si tout va bien, qui est envoyé en temps et en heure à l'heureux bénéficiaire et qui, avec ce brevet, peut se rendre au trésor royal, retirer sa pension. Alors, c'est facile si vous habitez à Paris, mais si vous êtes en province, eh bien, vous pouvez mandater quelqu'un pour aller retirer votre pension, moyennant une commission, puisque tout se paie et tout se rémunère.
Oui, voilà, tout se paie, tout se rémunère. Et puis tout le monde a besoin d'argent parce que dans ces pensions, Benoît Carré, que vous avez pu étudier, nous sentons qu'il ne s'agit pas seulement de ces énormes pensions pour les princes et les princesses du sang. Il y a aussi toutes ces petites pensions pour le moindre militaire. Et puis, il y a toutes ces demandes diverses.
Je crois reconnaître votre obligé. Tout frais de votre belle province, vous devez avoir un regard aiguisé sur les ridiculités de la cour.
Il est écrit « Ne juge point, et tu ne seras point jugé ».
Vous pensez bien que si les évangiles étaient de quelque utilité à Versailles, cela serait venu à ma connaissance. Joignez-vous à notre partie, si le cœur vous en dit. Nous jouons à 10 sols le point.
Les boucles d'argent de mes souliers sont ma seule richesse. Mais vous pouvez les estimer de plus près. En vous courbant bien.
Que sollicitez-vous à Versailles?
La charge d'assainir les marais de la Dombe, un paradis pour les moustiques. La vie d'un paysan n'y dépasse pas 35 ans.
Pauvres gens. Comme un malheur ne vient jamais seul, leur simple évocation provoque l'ennui.
C'est que voyez-vous, monsieur, les paysans ne nourrissent pas seulement les moustiques, ils nourrissent aussi les aristocrates.
Il est moins sot qu'il n'en a l'air.
C'est toute la différence entre nous, monsieur.
Ah, attention, on se tient bien. Le film Ridicule en 1996 de Patrice Lecomte, bien sûr, avec Bernard Giraudot, c'est l'abbé de Villecourt, et Charles Berling, c'est lui qui vient réclamer une charge pour assainir des marais infestés de moustiques. Benoît Carré, il ne faudrait pas donner une image négative. Et d'ailleurs, nous en sommes un peu les victimes à travers la Révolution de ce fonctionnement des pensions. D'accord, il y a les pensions, on le disait, pour les princes, les princesses. On l'entend bien, mais il y a un nombre de pensions, mais gigantesque, peut-être incalculable, mais là ça dépend des sources, pour plein de petites choses aussi.
Exactement, je vous remercie beaucoup d'avoir diffusé cet extrait de Ridicule, qui est un film qui permet d'incarner assez bien toute la diversité au sein du second ordre, au sein de la noblesse, et cette difficulté pour la, ce qu'on appelle à l'époque la noblesse pauvre, cette petite noblesse qui dispose juste d'une seigneurie, sa difficulté pour tenir son rang et pour vivre des récompenses du service au roi, qui est généralement le service militaire. Donc il y a en effet beaucoup de petites pensions. Plus sur les 22 000 pensionnaires du Trésor royal en 1789, plus de la moitié sont des militaires et surtout la grande majorité d'entre eux touchent des pensions inférieures à 600 livres, ce qui permet de vivre au cours d'une année, mais ce qui ne permet pas de vivre grandement. Donc, et même dans les textes, du point de vue des administrateurs, on qualifie ces pensions d'un montant inférieur à 600 livres de pensions alimentaires. C'est comme ça qu'elles sont jugées par les administrateurs de Versailles. Il y a énormément également de veuves de militaires qui touchent des pensions de réversion, ce qui leur permet de survivre et aussi de financer l'éducation de leurs enfants nobles. Alors bien entendu, là qu'on distingue le niveau de pauvreté, on ne parle pas évidemment des conditions de vie des paysans, notamment ici des paysans de la Dombes, dont le travail, dont la taille, dont les différents impôts financent ce système de redistribution totalement inégal, mais on parle de cette inégalité au sein de la noblesse qui crée au sein du second ordre, au sein de cette petite noblesse de province, énormément de ressentiment et de colère, puisqu'ils paient l'impôt du sang, ils passent leur vie à servir le roi dans ses différentes campagnes, et ils constatent que le mérite militaire n'est pas récompensé à sa juste valeur, et que peut-être à Versailles, des personnes qui sont juste là pour divertir le souverain font fortune et encaissent beaucoup plus que. Et c'est une réalité qui est découverte en fait assez tard, c'est-à-dire que le compte-rendu de Necker crée un soupçon en 1781, quand Necker rend public le contenu des dépenses de la monarchie, pour une raison bien particulière, on pourra y revenir si vous le souhaitez, qu'il révèle la somme considérable des pensions de la monarchie, 28 millions de livres, c'est l'équivalent du budget de la marine alors qu'on est en guerre contre les Anglais. Cette noblesse militaire ne comprend pas où va cet argent, parce qu'eux voient leur pension de petite pension de 600 livres. Et le problème, et peut-être l'erreur de Necker, c'est qu'il ne précise pas, n'explique pas comment est ventilée cette somme considérable. Donc cela crée du malentendu, du malaise et du fantasme aussi. C'est une machine à fantasmes, cette somme.
Ben oui, parce que ça, il fallait vous écouter pour comprendre que cette somme de pension dans son ensemble ne signifie pas que quelques-uns vont recevoir des grosses sommes, et il y a ce que vous évoquiez, toutes ces petites pensions à beaucoup de gens, avec une figure incontournable dans cette histoire, c'est Necker.
Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes.
Quel est votre avis, Monsieur Necker ?
Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences.
Non, Monsieur Necker.
Votre seconde option ?
Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté.
Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, Monsieur Necker.
Sire, c'est inévitable.
Et oui, alors ici, nous retrouvons Necker. Necker, dites-nous, Benoît Carré, pourquoi est-il si important dans cette histoire-là? Necker, on l'a dit, un directeur général du Trésor et des Finances, enfin, puis des Finances, donc 1776-77, 80 une première fois, et il revient quelques années plus tard, à la veille de la Révolution française, 1788-89. Pourquoi il est important? Quand il vient là pour la première fois, pourquoi est-il appelé?
Alors, pour nos auditeurs, quelques mots sur Necker, ce personnage qui est important à plusieurs titres. Il ne vient pas du sérail politique classique, il n'est pas issu des intendants de province ou des maîtres des requêtes, il n'est pas issu de la cour, c'est un banquier. C'est un banquier qui est suisse, mais qui s'installe à Paris assez tôt, fait carrière, dont l'épouse tient salon, hein, Suzanne Curchaud, Madame Necker, un salon très prisé, fréquenté par tous les ambassadeurs d'Europe à Paris à cette époque-là, et qui prépare un petit peu la carrière de son mari. Il est appelé en 1776 au sein du Trésor pour ses compétences justement en finance, en matière financière, pour ses relations avec le monde de la banque, pour son expertise tout simplement. Et il est protestant. Alors ça aussi, il faut le préciser, en tant que Genevois, il est protestant. Ce qui explique que quand il est appelé à prendre vraiment en main officiellement en 1777 les finances, il ne reçoit pas le titre de contrôleur général des finances, mais on lui donne le titre de directeur, parce que le titre de contrôleur ne peut aller qu'à un membre de la communauté catholique du royaume. Et il n'est pas appelé non plus à siéger au Conseil d'État, ça c'est un détail important de ce fait-là. Mais c'est lui qui a la main sur les finances. Et il a une idée géniale pour financer la guerre d'Amérique, donc le soutien aux insurgents américains contre l'Angleterre. Il a une idée géniale pour financer cela, sinon on ne va pas lever de nouveaux impôts, mais on va emprunter. Et c'est formidable parce que ça permet à la monarchie de lever des centaines de millions de livres par l'emprunt. Comment cela fonctionne, l'emprunt ? À cette époque-là, si vous avez de l'argent, il n'y a pas forcément de banque comme aujourd'hui pour le déposer. Un des moyens les plus sûrs et les plus rentables pour placer vos fonds, c'est de les apporter au Trésor royal dans le cadre d'un emprunt et d'en tirer un contrat de rente qui vous rémunère par une rente régulière à un taux qui peut varier en fonction du contrat de rente et du contexte.
5% souvent.
C'est souvent 5%, et durant la guerre d'Amérique, du fait du contexte de la guerre, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de dépenses et que la monarchie a besoin d'argent, on est entre 5 et 10%. Donc ce sont des emprunts qui sont extrêmement coûteux et qui sont assis et qui sont contractualisés en viager, c'est-à-dire qu'ils sont placés sur des têtes, dont la rente s'éteint avec la mort de la tête sur laquelle est placée cette rente. Donc ça veut dire qu'on va payer très très longtemps, si la tête est très jeune, on va payer très très longtemps, en tout cas l'État va devoir payer très très longtemps des rentes à ses rentiers. D'où la peur de la banqueroute au sein de ce monde des rentiers dans les années 1780. Donc Necker est important pour cela, parce qu'il permet d'éviter la levée de nouveaux impôts, de financer cette guerre d'indépendance pendant plusieurs années. Et en 1781, afin de finalement se gagner la confiance du public et afin d'asseoir la levée d'un nouvel emprunt en février 1781, il a l'idée, avec l'autorisation du roi, de rendre public les comptes de la monarchie en publiant un compte-rendu, le compte-rendu au roi de Necker, et c'est une démarche qui est totalement inédite, puisque l'une des caractéristiques des finances de la monarchie d'Ancien Régime, c'était le secret qui entourait ces finances, à tel point que à l'issue de la guerre de 7 ans, donc au lendemain de la guerre de 7 ans, 1764, Louis XV, le prédécesseur de Louis XVI, avait interdit qu'on publie sur les finances de la monarchie. Donc il était interdit de publier sur ce sujet-là, il n'y avait pas de débat public possible.
D'ailleurs, c'est un trésor royal, c'est pas le trésor public qu'on connaît aujourd'hui.
Tout à fait.
Ce n'est pas public, mais alors dans cette idée en 1780 de publier les dépenses du roi, quelle est la volonté de Necker ?
Alors la volonté de Necker, c'est de montrer à la fois aux rentiers, donc aux investisseurs, et à l'Angleterre, contre laquelle la France fait la guerre, que tout va bien, Madame la Marquise, que les comptes sont équilibrés, puisque Necker publie un compte qui est excédentaire de 10 millions. Alors c'est formidable, puisqu'on fait la guerre à l'autre bout du monde depuis 1779 officiellement, et les comptes sont excédentaires, après avoir emprunté autant d'argent. Donc, mais qui n'irait pas placer ses fonds dans une monarchie qui est si bien gérée? Donc le message, c'est celui-ci, principalement, c'est de montrer que c'est sûr, que tout est bien géré. Et puis, Necker fait aussi une petite perfidie, mais qui va lui coûter cher. C'est qu'il sépare, au sein du compte rendu, il sépare les dépenses des frères du roi de celles du couple royal. C'est-à-dire qu'il montre que voilà, le roi, la reine, en effet, ça coûte. Mais quand on regarde la ligne à côté, Monsieur Comte de Provence, le frère du roi, le Comte d'Artois, qui sont tous les deux futurs Louis XVIII et Charles X, ils dépensent quand même beaucoup d'argent. Donc il sépare ces deux lignes-là. Alors ce n'est pas la seule raison pour laquelle il sera renversé, mais en tout cas, les frères du roi vont s'atteler à savonner la planche de Necker dans les mois qui suivent la publication du compte rendu, et Necker est renversé en mai 1780, donc quelques temps après la publication du compte rendu, ce qui pose un problème, puisque Necker avait l'intention de poursuivre ses réformes, notamment ses économies sur la cour, de structurer et de réformer les pensions, notamment en les encadrant. Il ne peut pas mener à bien ces réformes, donc sa politique de financement de la guerre par la dette n'est pas suivie. Et manque sa cohérence.
Les calculs sont pas bons, monsieur Necker, parce que l'excédent n'est pas là. En réalité, qu'est-ce qu'a oublié Necker dans son compte-rendu ?
Eh bien, il a oublié de mentionner le coût de la dette, et ça, c'est repéré par l'intendant de Lille, qui s'appelle Calonne, à cette époque-là, et qui publie un pamphlet anonyme, Les Comment, où il pointe du doigt toutes les incohérences de ce compte-rendu et fait comprendre à ses lecteurs que, en fait, ce compte-rendu ne reflète pas vraiment la réalité. C'est une estimation, tout simplement, parce qu'on sait très bien, en tout cas ceux qui gèrent les finances et qui sont un petit peu au fait du fonctionnement de l'administration, savent très bien que la reddition des comptes prenant plusieurs années, Necker ne publie là que des estimations. Il n'a pas pris en compte les anticipations, c'est-à-dire quand on dépense à l'avance des recettes pour financer les dépenses de la monarchie, et que ça ne tient pas debout, cet excédent de 10 millions.
Les deux leviers des finances publiques sont les recettes et les dépenses. Alors les dépenses, c'est une chose, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Distribuer l'argent du roi au XVIIIe siècle, la monarchie dévoilée, c'est votre ouvrage, Benoît Carré. Quant aux recettes, c'est une autre histoire, mais il suffit d'écouter les émissions du cours de l'histoire, franceculture.fr et l'appli Radio France. J'imagine que Necker réfléchit aux recettes, bien sûr, comment mieux faire rentrer l'argent. Quant aux dépenses, il y réfléchit aussi, vous dites, encadrer les pensions, il y a toute une idée derrière cela, limiter les dépenses.
Tout à fait. Alors, Necker n'a pas le temps de mettre en œuvre son idée qu'il expose dans un ouvrage qui est publié au milieu des années 1780 de l'administration des finances de la France. Contrairement à ses prédécesseurs qui avaient l'habitude de réduire le montant des pensions par un prélèvement à la source qu'on appelle des retenues sur le trésor royal depuis le début du 18e siècle, sous la régence, l'administration des finances a inventé des barèmes progressifs en plusieurs tranches de retenue sur les pensions qui permettent au trésor royal de réduire la somme à distribuer. Et plus vous avez une pension élevée, plus la tranche de retenue est élevée. Donc il y a une idée d'instaurer une justice. Il y a plein d'exemptions, bien sûr. Et évidemment, les retenues sont très impopulaires. Et surtout, elles font crier les courtisans. Donc, Necker, qui essaye de naviguer entre les intérêts des rentiers et les intérêts de la cour, avait l'idée d'encadrer tout simplement la distribution et de limiter le nombre de nouvelles pensions accordées chaque année. Puisque la démographie fait que, au bout d'un moment, les pensionnaires meurent et finissent leur vie, ce qui libère chaque année un certain nombre nombre de pensions. Et au lieu de tout redistribuer, Necker imagine l'idée de créer un montant, de limiter à la moitié ou aux deux tiers en fonction de la rapidité avec laquelle on veut diminuer cette dépense et de encadrer cela d'un point de vue ministériel par des quotas pour chaque département ministériel. Ce qui va à l'encontre de la culture et du fonctionnement de la monarchie, ce qui va à l'encontre de cette culture de la dépense. Et le paradoxe, c'est que cette idée de Necker de limiter le nombre de nouvelles pensions distribuées chaque année et d'instaurer des quotas ministériels va être reprise quelques années plus tard par Calonne, qui, après avoir beaucoup dépensé, a été confronté à la réalité du déficit.
Ça doit être l'enfer hein, pour le contrôleur ou le directeur général des finances du moment de constater l'état des finances et puis surtout de ne pas disposer d'informations. Alors vous dites Necker a réfléchi à réorganiser les pensions du roi, ça c'est une chose. Et puis quand Necker croise le comte de Vergennes, le ministre des Affaires étrangères, c'est sûr, il fait les gros yeux.
Vous devez être content de vous ?
Pourquoi donc ?
Les Anglais se sont retirés. Vous avez obtenu ce pourquoi vous avez payé, ou peut-être devrais-je dire ce pourquoi vous avez pillé le trésor.
Comme si vous n'y étiez pour rien.
Moi, je ne fais pas joujou avec des petits soldats à l'autre bout du monde. Je compte l'argent.
C'est vous qui avez dit au roi que ça ne nous coûterait pas un sou.
C'est vous qui l'avez dépensé.
Où voulez-vous en venir ?
Vous pensez que votre chère Amérique deviendra rentable ? Hein ? Et que la France récupérera aisément son or ?
C'est un pari raisonnable, oui.
Et si vous vous trompiez ? Si les Américains et les Anglais pensaient pouvoir faire meilleure affaire entre eux et se passer de nous.
Ils ne peuvent rien faire sans notre accord.
Ah oui. À leur place, que feriez-vous ?
Vous êtes un fin comploteur, Necker.
Et vous, non ? La France pourrait aller droit à la faillite, vous savez. Ce qui ne serait bon ni pour moi, ni pour vous.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
La série télévisée Franklin avec Necker qui discute avec le comte de Vergennes, le ministre des Affaires étrangères. Dites-nous, Benoît Carré, pension, très bien, la guerre d'indépendance de ce qui deviendra les États-Unis, c'est une chose. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les dépenses de la reine, de la cour. C'est ce qui a été déjà évoqué dans cette émission, mais qui focalise les attentions, les dépenses considérables de la cour. Il y a une volonté aussi de limiter tout cela ?
Chez Necker, oui, assez rapidement, dès qu'il arrive en fait déjà à la direction du Trésor en 1776, puis à la direction des Finances en 1777, il tente, déjà il supprime un certain nombre d'offices, de postes, de charges au sein de la maison Bouche, hein, c'est la cantine de Versailles pour nos auditeurs. Et ça a un coût hein, de supprimer des charges, parce qu'il faut les rembourser. Donc mais ensuite, ça permet sur le long terme de dégraisser le coût global et puis d'encadrer tous ces ordonnateurs, tous ces officiers qui, à la tête de leur service, peuvent engager des dépenses. Donc, on crée un bureau général des dépenses de la Maison du Roi qui permet enfin au contrôleur général des finances, en l'occurrence là au directeur général des finances, d'avoir un regard sur les dépenses de ce ministère. Parce que l'un des problèmes du ministre des Finances, c'est qu'il n'a pas forcément le contrôle sur ce que ses collègues peuvent engager en termes de dépenses. Alors là, on avait un échange avec Necker, mais le ministre des Finances ne sait pas ce que le ministre des Affaires étrangères fait exactement avec l'argent, le budget des Affaires étrangères, qui en plus est payé par les dépenses secrètes. Donc là, il y a tout un volet et tout un autre enjeu. Et puis, sur la Maison du Roi, il y a cette volonté d'encadrer. Alors, on a beaucoup accusé la reine d'avoir dépensé, hein, Madame Déficit, mais j'aimerais qu'on parle de Monsieur Déficit, parce que la reine ne peut dépenser que si le roi l'autorise. Donc toutes les dépenses de la reine ont été autorisées par le roi sur proposition d'un ministre des Finances. Donc si vous avez un ministre qui veut obtenir la faveur de la reine et un roi qui veut faire plaisir à Marie-Antoinette, eh bien, vous avez des dépenses de la reine. Mais qui ne sont finalement pas aussi considérables que celles du roi. C'est-à-dire que Louis XVI dépense beaucoup plus que Marie-Antoinette. Si on s'intéresse aux achats qui sont faits dans les années 1780, Rambouillet coûte plus cher que Saint-Cloud, et les dépenses de faveur sont engagées par le roi, soit par la voie régulière, soit par le registre des ordonnances aux porteurs, c'est-à-dire le registre des dépenses secrètes, qui permet aussi de faire passer toute une série de dépenses de faveur. Donc il y a une cour qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'on voit dans les registres de dépenses institutionnelles, puisqu'il ne faut jamais oublier que oui, la cour en tant qu'institution peut se compter à partir des dépenses de la maison du roi, mais n'oublions jamais d'une part que la sécurité, par exemple, de la cour, tous les régiments, garde du corps, mousquetaires, qui finissent par être supprimés, mais tous ces régiments militaires sont payés par le département de la guerre. Donc il faut aller voir à travers différents départements ministériels pour se rendre compte du coût global de la cour. Et c'est tout un système, c'est toute la monarchie qui est presque liée à ce système de cour. Et ne jamais oublier que les familles qui détiennent les charges de la cour servent aussi, quand il s'agit d'un homme, vous pouvez très bien faire un trimestre à la cour en servant au sein de la chambre, par exemple, en tant que gentilhomme de la chambre, et puis un trimestre dans votre régiment en province, puisque la plupart de ces officiers, de ces nobles, sont des cadres de l'armée.
Ah, oui, parce que c'est vraiment cela que l'on retient à vous écouter, Benoît Carré, c'est cette complexité. Pension et pensionnaire de la monarchie, de la grâce royale au système de redistribution de l'État au XVIIIe siècle. Ça, c'est le titre de votre thèse, une thèse sous la direction de...
Marie-Laure Le Guay.
Marie-Laure Le Guay, qui a offert une préface à votre ouvrage, Distribuer l'argent du roi au XVIIIe siècle, la monarchie dévoilée. Tellement complexe pour un contrôleur directeur des finances du moment... Mais qu'en est-il pour l'historien ? Au moment de réfléchir à ces pensions, oui, de chercher la trace des pensions, est-ce que vous trouvez quelque chose de clair ?
Alors, je vous remercie de poser la question là, de la fabrique de l'histoire dans le cours de l'histoire. Le problème qu'ont eu beaucoup d'historiens des finances en général, le problème des archives financières de la monarchie, c'est qu'elles sont dispersées et lacunaires. Cependant, ce qui m'a aidé, moi, beaucoup, c'est l'enquête du comité des pensions de l'Assemblée nationale constituante qui a été menée à partir de janvier 1790. Puisque ce comité des pensions, qui est, pour dire les choses simplement à nos auditeurs, une commission d'enquête parlementaire, c'est le mot que l'on utiliserait aujourd'hui, se rend dans tous les ministères, se rend au trésor, demande une quantité et consulte une quantité incroyable de documents qui sont centralisés dans les locaux du comité, qui ensuite sont versés aux archives nationales, puisque ça tombe bien, le président du comité des pensions, Armand Gaston Camus, est aussi le garde des archives de l'Assemblée nationale, qui deviendra ensuite les archives nationales de France. Donc cette enquête permet à ces députés qui ne sont pas totalement ignorants des affaires de finances, mais ne sont pas non plus à l'intérieur de la machine, de prendre conscience de tout ce système complexe, éclaté, brouillon, et de le révéler au public par des rapports, ce qui facilite le travail de l'historien, puisqu'ils ont rendu intelligible, en voulant rendre intelligible à leurs collègues députés à l'Assemblée nationale constituante des choses complexes, ils aident l'historien à le rendre intelligible. Et puis ils ont aussi publié leurs correspondances avec les administrateurs, ce qui fait qu'en suivant les questions du comité des pensions, qui essayait de comprendre auprès de chaque ministre, de chaque ordonnateur, comment tout cela fonctionnait, nous avons les réponses, et cela nous permet de mieux comprendre, de mieux avancer et de s'y retrouver dans ce labyrinthe, dans ce maquis des dépenses de la monarchie d'Ancien Régime.
Oui, parce qu'au moment de l'enquête en 1790, il faut le rappeler, Louis XVI XVI est toujours roi. C'est un roi constitutionnel, mais il est toujours roi. Nous sommes sous la Révolution française. Et là aussi, tout le monde essaie d'y voir clair sur les finances de l'Ancien Régime.
15 ou 18 personnes avaient le droit de prendre directement les ordres de votre majesté, de prendre des bons. Chaque bon emportait après lui une dépense quelconque. Aucun département n'avait une quotité de fonds qui lui fût affectée. Le trésor royal payait tout, les différents ordonnateurs, et depuis l'année 1780, le secrétaire d'État expédiait et signait les ordonnances sur le trésorier. Mais ce ministre expédiait ses ordonnances sur les états qui lui étaient remis des différents départements. Il n'avait point le contrôle de toutes ses dépenses, du moins, il ne pouvait point l'exercer. Et l'on peut dire qu'il y était peu intéressé. Il n'était et ne pouvait être responsable de rien. Un ordre de choses semblables ne peut plus exister aujourd'hui.
Riyad Kera qui disait ce texte sur l'administration de la maison du roi et l'économie de la liste civile. Nous sommes en mars 1790. Arnaud de Laporte qui est l'auteur de ce texte. 1790 avec un regard sur ce qui s'est passé les années précédentes. Nous l'avons dit, un Necker est chassé en 1780. Quelle idée aussi d'avoir publié toutes les dépenses du roi et de ses frères. Il s'est fait des ennemis. Après Necker, quelles sont les tentatives, c'est un peu ce qu'on entend là aussi, pour essayer de canaliser les dépenses du roi?
Alors, il y a pas grand-chose qui est fait, en fait, surtout à partir du moment où Calonne, en 1783, devient contrôleur général des finances, parce que Calonne dépense beaucoup d'argent pour se lier et obtenir la faveur, justement, des frères du roi. Il éponge leurs dettes. Donc, des millions de livres du Trésor royal sont utilisés pour effacer l'ardoise des frères dépensiers de Louis XVI. Ce n'est véritablement qu'en 1786, au moment où on découvre le déficit de plus de 120 millions de livres, que le roi Calonne, un peu Vergennes aussi, prépare un plan de réforme fiscale considérable, très ambitieux, qui vise à supprimer tous les impôts existants pour en créer un nouveau, une espèce d'impôt foncier qu'on appelle la subvention territoriale, qui sera payée par tout le monde, sans exemption de la part de privilèges quelconques. Et pour faire accepter cet ambitieux programme, il est décidé de rassembler une assemblée des notables. Qu'est-ce qu'une assemblée des notables? C'est tout simplement une assemblée de membres de l'élite du royaume. On y trouve des ducs et pairs de France, des magistrats, des personnalités. Calonne hésite à mettre Lafayette sur la liste, finalement, il le fait. Donc, tous ces gens sont nommés par le roi et rassemblés à la fin de l'hiver 1787. À Versailles. Problème, c'est que Calonne se retrouve seul à défendre le programme, puisque Vergennes vient de mourir. Et la mort de Vergennes fragilise l'équilibre des factions au sein de la cour. Et Calonne, en révélant le déficit, suscite l'incompréhension au sein des notables, qui, eux, ont encore en mémoire le compte-rendu de 1781 et ne comprennent pas comment nous sommes passés de 10 millions de livres d'excédents révélés ou présentés en 1781 à plus de 120 millions de livres de déficit. Et plutôt que d'accepter d'engager cette réforme, les notables demandent à voir les comptes parce qu'ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Une cabale, une coagulation des oppositions conduit au renversement de Calonne en avril 1787, qui est remplacé par Loménie de Brienne, l'archevêque de Sens, qui accède au pouvoir et qui tente lui aussi de poursuivre les réformes. C'est-à-dire qu'il continue à défendre le projet de subvention territoriale. Et cette fois-ci, puisque les notables n'en veulent pas, et puisque Lafayette, à la fin de l'Assemblée des notables, en est même à réclamer l'Assemblée des États généraux, la monarchie décide de passer par la voie classique, c'est-à-dire la voie parlementaire, de faire enregistrer les édits de la subvention territoriale, plus l'édit du timbre, qui est tout simplement une taxation des actes administratifs, timbre fiscal, tout simplement, de passer par le Parlement et d'enregistrer les édits au Parlement. Et là, c'est une crise politique très rude qui s'ouvre, puisque les magistrats sont déterminés à utiliser et à monnayer cet enregistrement pour obtenir les états généraux.
Oui, parce que c'est ce que vous nous disiez en début d'émission, Benoît Macaré, le roi ne lève pas les impôts comme il le souhaite. Alors, une assemblée des notables, c'est sympathique, ça met en place les choses, mais ça n'aboutit pas. Et puis, passer par le Parlement, mine de rien, c'est un obstacle pour le roi, parce que ces parlementaires, quelque part, sont aussi des privilégiés. C'est-à-dire, ils n'ont pas envie de cette réforme du système portée. C'est toujours étonnant, d'ailleurs, ce regard que l'on peut avoir sur cette période. On se dit, le roi a tenté par tous les moyens de réformer les finances publiques. Les parlements, donc ça ne marche pas. Louis XVI est en bras de fer avec ses parlements.
Tout à fait. Alors l'été, on a tendance à l'oublier parce qu'on se focalise beaucoup sur 1789, mais l'été, surtout le mois d'août 1787, est extrêmement rude et violent d'un point de vue du conflit politique entre la magistrature et la couronne. Le roi est bien entendu contraint de convoquer un lit de justice à Versailles, de forcer l'enregistrement des édits. Cet enregistrement forcé est récusé par les magistrats le lendemain. Le roi est contraint d'exiler les parlementaires à Troyes à la mi-août. Il envoie ses frères, le roi en tombe malade physiquement de toutes ces contrariétés et il est contraint d'envoyer ses frères à la cour des aides et à la cour des monnaies, donc deux autres cours de justice pour forcer l'enregistrement des édits. Le comte d'Artois est hué, sifflé par la foule. Sa garde doit même mettre en joue la foule dans la cour du palais de justice la contestation est violente. Finalement, l'Homénie de Brienne, qui entre-temps devient principal ministre, c'est-à-dire qu'il prend les rênes, c'est-à-dire que le roi et la reine abandonnent la gestion de cette crise à l'Homénie de Brienne, cherche un compromis avec la magistrature, négocie à la fois le rappel des parlementaires à l'automne et la levée d'un grand emprunt, c'est-à-dire que la couronne accepte d'abandonner la réforme de la subvention territoriale en échange de l'acceptation par le Parlement d'un grand emprunt qui permettra de couvrir pendant plusieurs années les dépenses de la monarchie, s'engage à faire des réformes, notamment sur les pensions, de réduire la dépense, de réduire le train de vie de la cour, et promet peut-être, si tout va bien, la tenue des États généraux en 1792. Donc c'est une date assez lointaine. Évidemment, la couronne n'a absolument pas l'intention de tenir cette promesse, puisque quelques mois plus tard, l'Homénie de Brienne élabore un projet de cour plénière, c'est-à-dire de créer une nouvelle institution pour remplacer les parlements dans l'enregistrement des édits fiscaux, pour dépouiller cette magistrature rebelle de la plupart de ses compétences judiciaires. Donc c'est une réforme en profondeur de la justice qui est menée avec le chancelier Lamoignon. Et là, à partir de mai 1788, c'est la bronca. C'est-à-dire que, bien entendu, le Parlement de Paris finit par être au courant de ce projet qui est éventé, s'y oppose, commence à publier toute une série d'arrêts qui appellent à la réforme de la monarchie. Le roi est contraint de mettre le siège, d'assiéger le palais de justice de la cité en mai 1788. Des parlementaires, des conseillers donc sont arrêtés, notamment Duval des Préménil, et exilés, enfermés à l'île Sainte-Marguerite, dans le sud de la France. Et cette fois-ci, Ce qui se passe, c'est que le Parlement de Paris reçoit le soutien, la solidarité de toutes les cours de justice du royaume. Et face à cette bronca nationale, la couronne décide de reculer, d'abandonner ses projets. Et le 8 août, l'homonyme de Brienne annonce la convocation des États généraux pour l'année 1789. Quelques semaines plus tard, face à une menace de banqueroute, il cède sa place à Necker, qui, pour la première fois dans l'histoire de la monarchie, est rappelé.
Voilà, le retour de Necker. Nous sommes à la veille de la Révolution. Benoît Carré, nous sentons bien toutes ces tensions et surtout l'impossibilité, tant pour les recettes que pour les dépenses, d'obtenir des réformes. Et dans cette histoire-là, pour savoir quelles sont les dépenses du roi, il reste un document à consulter, c'est le Livre Rouge. Ce Livre Rouge, c'est vrai que nous avons ici, parce que nous sommes dans un système où les comptes doivent être connus, consultables, commentés sans arrêt, un document qui a pu étonner au moment de sa publication. 1780, Necker avait déjà publié une sorte de compte de budget. Bon, ici, en 1789, la publication du Livre Rouge, nous avons quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ce Livre Rouge ?
Alors, à la fin de l'année 1789, des députés entendent parler de l'existence d'un Livre Rouge qui contiendrait des pensions, puisque l'enjeu à cette époque-là, c'est d'obtenir la publication de la liste nominative des pensionnaires. Et le comité des pensions, au début de l'année 1790, se met en tête d'obtenir ce Livre Rouge et le demande à Necker. Et là, le comité des pensions est confronté à la réticence de l'administration, et en l'occurrence du ministre, qui, paradoxalement, alors qu'il avait été le premier à ouvrir la démarche de gestion publique des finances ou de publicité des finances de la monarchie, se trouve là à ralentir le pas et à tenter de dissimuler la communication de ce registre des ordonnances aux porteurs, qui tout simplement est un registre qu'on appelle le Livre Rouge parce qu'il est recouvert de maroquin rouge, qui est conservé encore aujourd'hui dans l'armoire de fer des Archives nationales, dans le Marais, qui est entièrement numérisé en ligne, tout le monde peut le consulter maintenant, et qui contient, qui sert surtout à consigner les dépenses secrètes de la monarchie qui sont payées via des ordonnances aux porteurs. C'est tout simplement des ordonnances dont le nom du titulaire n'est pas connu, c'est-à-dire que si vous avez une ordonnance aux porteurs, vous allez au Trésor royal, on ne vous demande pas votre nom, la signature du roi figure sur cette ordonnance, et on vous donne la somme, le caissier vous donne la somme qui est inscrite là-dessus. Le registre des ordonnances aux porteurs permet surtout de payer les dépenses des affaires étrangères, mais Louis XVI en est aussi beaucoup servi pour faire des acquisitions, notamment Rambouillet, effacer les dettes de ses frères, et quelques pensions figurent également sur ce registre des ordonnances aux porteurs. Et le comité des pensions donc se fait un devoir de consulter ce registre. Necker résiste, joue la montre, finit par se faire porter pâle. Le comité des pensions doit retourner devant l'Assemblée nationale pour exiger un décret, pour forcer le roi à communiquer ce registre aux membres du comité, à condition que les dépenses personnelles du roi ne soient pas révélées et à condition que celles du règne de Louis XV soient dissimulées.
Cette histoire-là s'arrête quand le trésor royal devient le trésor public, en fait. On peut le dire ainsi.
Oui, on peut le dire ainsi. En fait, ce qui s'opère en 1790, et ce sera sans doute la conclusion de notre émission, c'est une séparation très forte et inédite entre les dépenses du roi, qui sont limitées à la liste civile, et les dépenses publiques qui sont votées par l'Assemblée nationale, qui sont payées par la trésorerie nationale, qui deviendra le trésor public. Et c'est la même chose pour les pensions de nos militaires, qui ne sont plus payées par le roi, mais qui sont payés désormais par le Trésor national et sur des critères fondés sur le mérite militaire et le service.
Ah, merci beaucoup Benoît Carré, c'était Carré. Distribuer l'argent du roi au XVIIIe siècle, la monarchie dévoilée. Merci beaucoup pour cette réflexion sur les dépenses du roi, et on sent combien c'est difficile à saisir vu que les contemporains eux-mêmes avaient déjà énormément de mal. Merci beaucoup à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci pour votre invitation.
Prochain épisode dans le cours de l'histoire, toujours histoire de dépenses publiques, dettes publiques, les bonnes recettes de François Ier.
Alors on ne joue plus ?
Ah non madame, je n'ai plus un denier.
Eh bien un impôt nouveau, allez voilà plein.
Un impôt ? Ah non, pas d'impôt. Le peuple a assez d'impôts à payer comme ça.
Eh bien alors pas d'impôt, mais que diriez-vous d'un joli petit emprunt d'État ?
Un emprunt d'État, qu'est-ce que c'est que ça?
Vous ne savez pas ce que c'est qu'un emprunt d'État?
Oh, parce que vous êtes en retard, alors. Écoutez, je vais vous expliquer. Restez assis, ne vous dérangez pas.
C'est le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Ruben Carmazzi, une émission préparée par Solène Roy, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.